À voix nue, Alain Corneau, par Sophie Nolo.
Alain Corneau, troisième.
Artiste de séries noires. Cinéaste de séries noires, oui. C'est sans doute l'étiquette Alain Corneau qui vous colle le mieux à la peau, aux yeux du public en tout cas, même s'il y a eu Nocturne indien, Tous les matins du monde, Stupeur et tremblement, Les mots bleus et d'autres encore. Vous êtes le réalisateur des grands films noirs à succès, à tel point qu'on m'a dit qu'un policier un jour avait dégainé son arme. Vous l'avez montré en vous disant « Ça, monsieur Corneau, c'est pas un police Python 357, c'est un Corneau 357 ». Quel compliment.
Je ne me souviens pas tout à fait de ça. Ce dont je me souviens, c'est effectivement qu'après le film, il y avait les affiches dans les commissariats. Ce dont je me souviens, mais ça c'est plus récent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est Olivier Marchal, qui m'a avoué quand je l'ai appelé après 36 en lui disant « Ah bravo, et puis en plus c'est bien, ça repart le polar et tout », il m'a dit « Mais écoute, c'est à cause de toi que je suis devenu flic, à cause de Police Python, et après c'est à cause de toi que j'ai eu envie de faire du cinéma ». Alors bon, c'est... Alors là on se dit « Bon bah c'est bien, j'ai fait des films au moins pour une personne, c'est pas mal ». J'ai toujours aimé ça, comme cinéphile. Pourquoi ? Je crois savoir pourquoi, mais d'une manière intellectuelle, donc pas la vraie raison.
L'intellectuel, c'est quoi ?
Je pense que le film noir, à partir du moment où on pense que... Alors, bon, je vais un peu parler boutique cinéma et j'ai donc un peu tort. Si on pense que le cinéma est sans doute un des arts les plus performants sur la question d'identité, ne serait-ce qu'à cause de l'impression de réalité, parce que Dieu sait que tout ça n'est pas réaliste. Hein. Bon, ça, c'est la grande erreur constante sur le cinéma naturaliste, etc. Enfin, bon. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'en tant que spectateur, quand on va dans une salle, on y va pour s'identifier... Aujourd'hui, Dieu merci, on a le droit de le dire. À l'époque de ma jeunesse, si on disait ça, on était catalogué comme bourgeois réactionnaire. Vraiment. On y va pour s'identifier à le destin d'un personnage que donc nous entrevoyons comme étant frère de nous-mêmes, mais qui est donc une partie de nous-mêmes, même si on ne l'est pas. Donc déjà, la question se pose sur le spectateur qui est là, collé à l'écran comme un cordon ombilical, dans le noir, donc comme une sorte de rêve. Ça ressemble beaucoup les questionnements qu'on se pose sur soi-même, hein, dans le noir, ou en rêve, ou pas en rêve, etc. Bon, première chose. On peut, si on est un spectateur heureux, s'identifier à des personnages extraordinairement différents, y compris négatifs. La deuxième chose, c'est que quand même, sur un plateau, quand vous regardez un comédien, le trouble vous saisit quand même beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette technique ? Dit droit à raison, il reste toujours lui-même, et en même temps, quand il réussit une belle prise, il se pose des questions. La question la plus stupide qu'on peut dire à un acteur à la fin d'une très belle prise, c'est de dire « Mais comment t'as fait ?» Il n'a aucune réponse. Or, en fait, c'était bien en lui, quand même. Donc, ça fait partie de lui, même si c'est pas lui. Donc, tout ça, moi, j'adore ça. Hein, j'adore ça. C'est des choses qui me fascinent. Je trouve ça fascinant. Alors, maintenant,
c'est jamais deux fois pareil, en plus.
Voilà. Donc, pour parler du cinéma noir, cette question-là est au centre du cinéma noir. Elle est au centre, la question d'identité. Ne serait-ce que sur la culpabilité. Ne serait-ce que pour réduire le cinéma noir à cette simple question. Sur la culpabilité. Le grand cinéma noir qu'on aime, c'est le cinéma où le doute s'installe. C'est le cinéma où d'un seul coup, on a embarqué dans White It, L'enfer est à lui, par James Cagney, alors qu'il ne fait rien. C'est un personnage totalement indéfendable. Totalement indéfendable, qui n'aime que sa mère, qui est prêt à tuer tout le monde. Mais d'un seul coup, il a des migraines terribles quand on lui annonce que sa mère est morte, il se roule par terre et tout, et on a envie de le prendre dans les bras. C'est quand même extraordinaire, quand même. Dans le polar, dans le film noir, on se retrouve à filmer les séquences où on se demande ce qu'on est en train de faire. Où on se dit, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. On a deux personnages qui viennent de faire une très mauvaise action, qui se serrent la main en s'estimant. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Et c'est extraordinaire. Voilà. Alors bon, il n'y a pas que ça, c'est pas que dans le cinéma noir qu'il y a ça, mais c'est vrai que c'est ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que le cinéma noir permet tellement de degrés de lecture différents. Première lecture, l'histoire simplement. Le suspense, on s'amuse, on ne s'amuse pas. Deuxième chose, le destin du personnage, des personnages. Ça fonctionne encore mieux quand c'est du type tragique, c'est-à-dire que les personnages vont vers leur mort. Ce qui est la grande question du film noir. Même à Hollywood, où la happy end était quasi obligatoire, le film noir a échappé à ça. Le film noir, effectivement, souvent les personnages qui sont dits négatifs, et il faut qu'ils meurent à la fin. Or, c'est quand même l'héros, c'est l'acteur qui a porté le film. C'est un genre rebelle, hein, déjà. Troisièmement, à mon avis, c'est toujours une leçon de doute. Un grand film noir... fait douter, il n'y a rien à faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'en box-office, Il n'atteindra jamais les sommets d'une comédie ou d'un film sentimental. Il y aura toujours un moment où, même quand on a un gros succès, ça s'arrête. Ça plafonne. Parce que ce doute-là, les gens n'ont pas forcément envie de le vivre, même si après, ils trouvent ça très beau, etc. D'autres éléments de lecture, ce que j'appelle une radiographie sociale sur les rapports de force qui échappent à tout psychologisme. Et ça, je trouve que de débarbouiller les personnages grâce à la fiction noire de toute attention psychologique est une chose merveilleuse. Parce qu'il y a un moment, oui, on parlait de sortir des calibres, hein, on sort un calibre. Attention, quand on sort un calibre d'un film noir, c'est pas rien. C'est le moment où la cristallisation se fait de manière spectaculaire sur le rapport de force. C'est évident. Alors maintenant, il est négatif, positif, douteux, pas douteux, et c'est la vengeance, pas la vengeance, peu importe, je veux dire, il y a quelque chose. Pourquoi quand on fait le casting d'un film, le casting des armes à feu, si on est soigneux, est très important? Mais parce que un personnage dans un film noir sort pas n'importe quelle arme. Je veux dire, il doit y avoir un rapport physique, il doit y avoir quelque chose, ou une contradiction, ou il est trop gros, il est trop petit, j'en sais rien, ou trop luxueux, ou pas assez, j'en sais rien, mais il y a quelque chose, où il a une impression d'agressivité, ou plutôt de sérénité, ça peut arriver, je veux dire. Bon, tout ça est extraordinairement important, et chaque détail devient important. C'est-à-dire que c'est une sorte de mécano infernal.
À tel point que pour Police Python 357, ah, vous aviez enregistré la détonation aux États-Unis.
Absolument. Oui, alors ça, le son, bien sûr, ça joue aussi. Il y aurait une histoire à faire sur les sons des coups de feu, historiquement.
Vous savez les reconnaître maintenant ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Et puis ça continue à se transformer. Au moment, par exemple, du toucher pas au Grisby, ou même du premier, deuxième souffle, etc., c'était pam, terminé. Il n'y avait même pas d'impact hein, sur les gens, ils tombaient, puis c'est tout. Petit à petit, ça a commencé, le son a commencé à venir. Le son des armes a commencé à être trafiqué. Le western italien est passé par là, où il y avait des ricochets, où ça devenait un espèce de festival. Le polar urbain américain, paranoïaque des années 70, Dirty Harry, a amené encore un autre genre de puissance. Peckinpah nous a amené une chorégraphie qu'on n'avait encore jamais vue avant. Le son a tendu à grossir. Les explosions ont tendu à être de plus en plus chorégraphiées. Le ralenti est arrivé, etc. Enfin bon. Aujourd'hui, que vous regardez les derniers films américains, ou même les films asiatiques qui ont beaucoup progressé sur l'image, on est en train d'aller vers un chemin inverse. C'est-à-dire que le son, maintenant, par exemple, d'un coup de feu, paf, devient une détonation beaucoup plus sèche, plus métallique. Enfin, tout ça est passionnant, hein. Maintenant, c'est la cuisine, ça, hein. Les gens ne sont pas forcés de le percuter. Tout ça fait qu'on est dans un artisanat d'art qui, moi, me comble. Je me suis souvent dit, par exemple, pour aller sur un autre sujet, pourquoi l'Inde me fascine? Bon, parce que c'est l'Inde. Mais c'est aussi parce que c'est encore l'endroit où on arrive dans des villages, où il y a des gens qui font des tableaux, comme leur père leur a appris, etc., et qui ne se sentent pas investis d'une notion d'artiste dans le sens, mais d'artisan.
Oui, vous avez des peintures tantriques, c'est exactement
voilà.
Ça.
Voilà, et ce qu'ils font, en fait, c'est éblouissant, parce qu'ils n'ont pas le statut, qui est quand même un statut très particulier, qui est arrivé à la bourgeoisie au 19e siècle, en Occident, de l'art, qui a tour d'ivoire ou pas tour d'ivoire, enfin bon, militant, pas militant. Moi, je suis forcé d'aimer les deux, hein, puisque je suis occidental, français, ayant vécu tout ça, donc je renie absolument pas ce statut, bien sûr, évidemment que non, mais je suis également fasciné par ce qu'on appelle l'artisanat d'art. Alors, ouais, encore, je pourrais en parler pendant des heures du cinéma noir, mais le cinéma noir permet de travailler comme ça aussi, avec une espèce d'humilité noble, qui est quelque chose qui, moi, me ravit, je veux dire, bon, voilà.
Et alors, la raison la moins intellectuelle, si on essaie de la chercher, vous aviez enfant, j'ai lu un Colt à amorce argentée, dorure et crosse en fausse nacre, avec tête de Géronimo.
Tête d'Indien, oui, mais comme beaucoup d'enfants, petits garçons, j'en souviens.
Oui, mais décrit comme ça, personne décrit
comme
ça.
Ah, voilà, ah, ben, je me souviens très bien d'avoir du cadeau que ça a été, je me souviens très bien de l'odeur de cette arme, je me souviens très bien, c'était encore les trucs de rouleau d'amorce, je me souviens très bien de l'odeur de la poudre, etc., etc. Alors par contre, je m'abriterai derrière un des metteurs en scène que j'adore, qui est dans sa modestie flamboyante, qui est Don Siegel, qui a fait beaucoup de films avec Eastwood, Dirty Harry, etc., qui avait été rejeté à l'époque, mais qui sont des grands films. Don Siegel a dit, moi dans la vie, je ne tuerai pas une mouche. C'est même pour ça que j'arrive à filmer la violence à l'écran, c'est parce qu'elle m'impressionne. J'en suis absolument persuadé. Je suis persuadé que quelqu'un qui aurait des tendances violentes ne saurait pas vraiment filmer les rapports de force violents. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Je crois que Sam Peckinpah, qu'on prenait pour un violent, était en fait un type extrêmement doux. C'était un mec désespéré, au bout du rouleau constamment. Quand il a fini, il y a un moment qui, moi, me touche toujours, quand il a fini cette grande fusillade qui a été totalement improvisée de la Horde Sauvage, Wild Bunch, où d'un seul coup, il est parti dans une sorte de furia, où on ramenait sans arrêt des balas blancs, où on était obligé de recoudre les costumes, c'était pas prévu, etc. Vraiment. Et ça a duré je ne sais pas combien de jours, il savait plus ce qu'il faisait vraiment, mais il savait très bien qu'il était en train de maîtriser un objet nouveau. Et quand il a dit « cut » la dernière fois, et qu'il a dit « j'ai plus rien à faire », il s'est éloigné de 10 mètres, il s'est assis sur une pierre, il s'est mis à pleurer.
Mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans les armes à feu chez vous?
C'est uniquement spectaculaire.
Il y a beaucoup d'Inde, il y a beaucoup de choses comme ça.
Jamais je n'ai l'arme à feu dans la vie.
Vous n'êtes pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe justement?
C'est purement cinétique ou cinématographique. C'est uniquement ça. C'est, encore une fois, je le répète, c'est l'objet qui, quand on le sort, cristallise. Sur l'écran, d'un seul coup, les choses se figent. On est dans un moment où de swing ou de template à la tauromachie, un moment où on a l'impression que toutes les lignes des forces du cadre se résument à ça. Il y a une façon de tirer. Moi, la seule chose que je fais souvent, c'est que j'entraîne mes acteurs avant le film pour qu'ils tirent un balle réel, pour qu'ils sentent qu'il y a un recul, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est pas pouf-pouf, c'est pas tout ça. Enfin voilà, que ça fait du bruit, qu'on est obligé de mettre un casque, que c'est très très dur, que c'est pas un jouet du tout. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais toucher, hein, jamais approcher, et surtout qu'il n'y ait pas de fascination dans la vie. Voilà, ça c'est extrêmement important. Donc je n'ai aucune fascination dans la vie pour ça, je ne suis pas du tout obsédé par les armes à feu. Sur un film, oui, une véritable dinguerie sur les calibres, sur tout ça, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai commencé Python en montant, qui était en train de fabriquer ses propres balles.
En montant.
Oui. Et avec une musique de Delru incroyable, bizarre, très atonale, etc. Et je pense que c'était une porte d'entrée sur ce que j'allais faire après plus tard. Oui, bien sûr.
Bah, le choix des armes était un titre fabuleux. Oui. Et puis il y a cette contrebasse avec les cordes pincées d'emblée qui dit que ça va.
Oui, c'est pareil.
Ça va tirer.
Maintenant, on peut concevoir un film noir où il n'y a pas d'arme à feu. Attention, on peut concevoir un film noir
où l'arme à feu serait tenue par une femme.
Oui, bien sûr.
Parce que dans tous vos films, ce sont
bien
des
sûr,
hommes.
Bien sûr.
C'est très phallique, l'arme à feu, dans vos films.
Absolument, c'est vrai. Mais je crois que c'est assez vrai quand même en général. Maintenant, il y a eu des très grands films policiers avec des personnages féminins. Il y a eu un Cazavetes, Gloria, qui était extraordinaire. Je veux dire, bon. Et puis il y en a encore. C'est plutôt alors par manque d'imagination personnelle et par incapacité professionnelle. Mais c'est pas du tout quelque chose que je revendique fièrement, loin de là. Alors, pas du tout. Non.
Dans Police Python 357, il y a cette scène terrible vers la fin où Simone Signoret est dans la Mercedes.
Voilà.
Qu'elle veut se suicider et qu'elle demande à Yves Montand, à l'inspecteur Ferraud, de le faire.
Oui.
C'est très fort à l'écran et je crois que ça l'a été aussi sur le tournage.
Ça n'a pas été facile à tourner. Je ne m'y attendais pas. J'aurais dû m'y attendre. Là, il y a eu un moment où, ce qui arrive souvent, mais souvent c'est anodin. Là, ce n'était pas anodin. Il y a eu donc, comme souvent, interpénétration de la vie et du cinéma.
Parce qu'au départ, vous aviez pensé à Yves Montand, mais pas à Simone Signoret.
Non, jamais j'aurais osé demander à Simone de faire un rôle secondaire. Jamais, j'aurais osé. C'est Yves qui m'a dit, demande à Simone, tu verras bien, etc. J'ai dit, écoute, oui, ok, j'y vais, je demande à Simone, qui a accepté. Dieu merci, j'avais pas écrit ces scènes-là ou cette scène-là
en pensant
à un rapport de couple dans la vie. Je crois même que ça m'aurait paralysé. Donc, c'était fait avant, le scénario était boulonné, donc il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'arriver sur le terrain, ça, c'est une expérience de jeune metteur en scène très formatrice. Simone ne pouvait pas faire la scène, c'est aussi bête que ça. Simone était une actrice très instinctive, comme beaucoup de très grands comédiens. Elle se met dans la voiture, de nuit, au milieu de la Loire, et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens, pourquoi elle ne suscite pas avec du
cardinal?
Et elle me tire un fil, comme elle était brillantissime intellectuellement, elle me détruit le scénario, mais alors, totalement, plus rien ne tient. Yves, quelqu'un de bien, n'intervient pas, me dit simplement, nous ne sommes pas des mécaniques. Je dis, ah oui, je sais, et on ne fait pas la scène. Et commence là, deux, trois jours, pas plus, de discussion infernale, je veux dire, avec Simone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si, cette scène, j'en ai besoin, c'est impossible de faire autrement, j'ai besoin de cette main gantée qui prend l'autre, j'ai besoin de cette arme qu'elle retourne contre elle, elle ne peut pas le faire. J'emploie tous les arguments. Ouais, non, un deuxième essai avorté, pour un metteur en scène qui fait un film où on est obligé de tenir le budget, c'est pas simple à vivre. Et puis, je sais pas pourquoi, troisième nuit, je la vois arriver, en rediscussion. Je la vois arriver avec un pas un peu différent. Elle marche un peu différemment, Simone. J'ai senti que ça allait aller. J'avais préparé un plan à deux. J'ai dit tout de suite à l'opérateur, on change de focale et on se met en gros plan sur Simone. Elle s'assoit dans la voiture. Elle me fait un signe du genre, vas-y.
Finissons-en.
Un peu fermé. Je dis moteur, partez. Et elle me sort un texte qui est à peu près celui du scénario, mais pas vraiment. Et qui est absolument merveilleux. Et elle va au bout. Et on dit couper. Et j'avais la scène, j'ai une prise. Elle est un poil floue d'ailleurs, mais ça va. Alors après, on a fait le plan sur Yves et le film est monté. Et elle était ravie. Je ne l'ai pas violée, je ne l'ai pas manipulée, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai appris quelque chose. C'est que je l'ai aimée constamment, Simone, pendant ça. Je pense que c'est ça le secret de ce qu'on appelle la direction d'acteur. Voilà. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. C'est d'abord le choix, comme tout le monde vous dira, où 80% du travail est fait au choix, la réponse de l'acteur, la manière dont il vous répond, presque tout est fait. Et après, quand il y a des difficultés sur le plateau, parce que les acteurs doutent, il faut absolument les aimer de plus en plus. Et être sûr qu'ils vont y arriver. Mais vraiment être sûr. C'est pas, si c'est une stratégie, ça ne marche pas. Ils sentent. À partir du moment où vous lui dites, sincèrement, pas de problème, tu vas y arriver. Ils y arrivent. Ils y arrivent.
Mais vous qui doutez beaucoup dans la vie,
ça.
Comment vous ne doutez pas comme ça en tant que metteur en scène?
Je doute sur ce que je fais moi, mais pas sur la qualité d'un comédien. Si je doute sur la qualité d'un comédien ou la qualité d'un technicien, là je meurs. Je ne peux pas faire le cinéma. Je ne peux pas faire le cinéma. Par contre, mes doutes à moi, j'ai un rapport au doute de nouveau d'incertitude, normal. Je pense, j'arrive à fonctionner grâce à ça. C'est-à-dire, le doute fait partie de ce qui nous donne la possibilité de travailler. Sans doute, à mon avis, on travaille mal. Il faut le garder à un certain niveau qui ne devienne pas asphyxiant. Il faut constamment jouer avec cette espèce de personne qui est en vous, qui est contre vous, et qui vous remet en question, qui vous remet en cause constamment, voilà. Et puis, de temps en temps, moi, je sais qu'il y a des projets que j'ai arrêtés tout seul, parce que le doute est devenu trop fort, et ce doute avait raison, sans doute.
La Police Python, en 75, c'est un grand succès.
Oui, ça marche, oui.
Vous enchaînez avec Yves Montand sur La Menace, puis Le Choix des Armes.
Absolument. Je dois beaucoup de choses à Yves, ça c'est sûr, une grande partie de mon travail dans le cinéma. Yves m'a fait confiance pour un deuxième film, alors que le premier avait été un désastre. Il a en plus pris le risque, qui était pour lui un risque intellectuel, de jouer un flicard qui sort son gros calibre, etc. Et pas du tout un personnage comme il a pu faire dans La Guerre est finie, qui était sa stature. Il avait cette qualité de pouvoir s'amuser, d'aimer les films d'action, d'aimer les westerns, d'aimer les polars. Donc il avait cette capacité-là. Et c'est vrai qu'il m'a suivi dans 3 expériences avec beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme, et qu'il a été un compagnon extraordinaire, se battant pour la mise en scène, se battant pour le film, m'accompagnant dans les repérages lointains au Canada.
Pour la menace.
Cette
histoire invraisemblable du type qui finit par se faire tuer par des camions, enfin c'est,
oui, mais alors,
c'est
quasi
insupportable.
C'est là où j'ai été le plus loin, je veux dire, dans la mécanique. Je pense que je voulais faire, et ça c'était conscient, un film assez mécanique, en cercle
et qui ne s'arrêterait pas,
voilà,
qui l'écrabouillerait à la fin.
C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'un des films qui m'avait le plus marqué était un film de Fritz Lang qui s'appelle Beyond a Reasonable Doubt, l'invraisemblable vérité. Je raconte en 2 mots l'histoire parce qu'elle représente beaucoup de ma matrice quand j'ai écrit et peut-être après quand j'ai adapté des livres aussi. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un veut prouver que la peine de mort est une connerie. C'est un journaliste qui est avec un ami, une prostituée est tuée. Il dit, alors, voilà ce qu'on va faire. On va accumuler contre toi des preuves fausses avec des photos. Et tu vas aller jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation. Et puis là, je vais montrer que c'est faux. Donc ça se passe comme il dit. Le personnage qui est Alan Andrews est condamné à mort. Donc le journaliste dit, c'est bien, c'est le moment venu. Il prend sa voiture, il recule, pouf, camion, la voiture explose, plus de preuves.
Ça vous Andrews, fait rire.
Oui, parce que c'est diabolique. Donc Alan Andrews se bat comme un damné pour dire que tout est faux, qu'il est innocent. Sa fiancée se bat avec lui. Arrive à le sortir de prison. Et la dernière scène, ils marchent tous les deux ensemble. Et Dan Andrews dit quelque chose, un mot, c'est-à-dire un prénom féminin qu'il ne devrait pas dire. En fait, c'est lui le coupable. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est totalement délirant. Je trouve que Fritz Lang, là, a été, bon, dans beaucoup de ses films, mais a été le plus diabolique. C'est un système d'enfermement. J'ai souvent aimé les personnages qui accumulent des choses contre eux, etc., et qui finissent par en crever parce qu'en fait, ils se forment une identité qui n'est pas la leur. Quoi, voilà.
Ou alors, c'est l'inspecteur Féraud dans Police.
Voilà, qui devient le prolongement de son arme, ou c'est l'autre qui veut être quelqu'un, l'autre qui veut être coupable alors qu'il ne l'est pas. Enfin bon, voilà. C'est ces choses-là qui sont à la base, en tout cas, des scénarios originaux que j'ai écrits, et peut-être d'autres scénarios. Nocturne Indien, c'est quelqu'un qui ne sait plus très bien où il en est aussi.
Hein. Oui, c'est une enquête aussi.
Voilà, qui dit chercher quelqu'un. On ne sait pas très bien qui c'est. Est-ce qu'il cherche lui-même? Est-ce qu'il cherche le Portugal? Et dans sa petite valise, qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, voilà. C'est une sorte de film noir. Hein, et Tabouki est d'accord pour dire que c'est un polar même. Oui.
Et Le Choix des Armes, c'est votre dernier film avec Yves Montand?
Alors, Le Choix des Armes, c'était un truc un peu spécial. C'était un moment où j'étais vraiment en plein enthousiasme de redécouverte de la tradition noire française, etc. Et, tout. Et je me suis dit, bon, bah, alors nous, on est venu après le cinéma des gangsters, après Melville, après tout ça, après Pigalle. On a été en banlieue, tout de suite, filmer les personnages qui n'avaient plus rien à voir. La drogue était déjà là, en plus. Donc, c'est ce qu'on a fait tous, y compris moi, où j'ai fait en province, où j'ai fait avec Devers, j'ai fait avec Depardieu,
dans Série Noire,
bien sûr. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de tendre la main au cinéma d'avant, avec notre cinéma à nous. D'où l'idée, Montand, ex-truand retiré, et Depardieu, petit loupard de banlieue, chien fou. Donc, c'était une sorte dans ma petite tête de jonction de pouvoir combler un fossé entre le cinéma d'avant et notre cinéma à nous. Voilà, c'était ça. C'était un peu l'idée un peu ambitieuse de départ. Donc c'était une sorte de coup de chapeau au cinéma d'avant, quoi.
Voilà. Et Série Noire, c'est un coup de chapeau à la Jim collection Dobson. Noire aussi.
Oui, oui, et Jim Dobson. Oui, mais d'abord le titre. Et puis alors là c'est un livre que je connaissais. Et j'y ai vu, à tort ou raison, la possibilité de l'adapter en France, d'un seul coup. Je me suis dit, tout le côté polarisé dont Jim se foutait un peu, il y avait un côté gang de banlieue avec Bloody Mama, etc. Mais par contre, on peut garder la trame qui devait intéresser Jim sur le personnage principal, sur Franck, et peut-être l'adapter sur la banlieue française, voilà. Donc là, d'un seul coup, ça m'est venu, et j'ai écrit l'adaptation relativement vite. Après, on l'a retravaillé avec Georges Perec.
Sur les dialogues.
Qui a été un délice. Georges, ça a été une rencontre merveilleuse. Mais Georges, je les connaissais de la Cinémathèque. Je savais qu'il n'était pas uniquement l'homme des avant-gardes ou de l'Oulipo. C'était quelqu'un qui aimait Douglas Sirk, qui aimait le polar comme moi. Et quand je lui ai proposé ça, il était ravi. Et il venait d'écrire « Je me souviens ». Et je lui ai dit, bah, écoute, d'abord, en un premier temps, on va travailler sur les dialogues, il faut que tu me fasses des trucs, des jeux de mots ratés, des trucs, il a été ravi. Et évidemment, en touchant au dialogue, on l'a touché aussi aux séquences, voilà. Et ça a été très exceptionnel et très drôle de travailler avec lui. Ça a été vraiment très, très drôle. Vraiment,
et vous l'avez tourné avec Patrick Devers et Marie Trintignant, qui à l'époque était toute jeune, et n'a pas pu voir le film car il était interdit.
Alors, ça,
au
c'est
moins
l'autre,
18,
l'autre fardeau que portent les cinéastes qui font des cinémas noirs sur le dos, c'est la censure. Le film était interdit au moins de 18 ans. Donc Marie ne pouvait pas voir le film. Aujourd'hui, il passe sur les télés sans même un avertissement. C'est terrible. Et je me souviens encore de la lettre de la censure de l'époque qui était « Comme le film est assez crédible et réaliste, il est dangereux. » Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Sur celui qui va sortir, là, le deuxième souffle, il m'arrive encore la même chose. Alors, j'ai un avertissement, mais on a failli y avoir quelque chose. En Belgique, ils veulent me l'interdire au moins de 16 ans. Il n'y a rien à faire. On a beau se défendre comme des beaux diables... Alors, ils appellent plus ça censure, ils appellent ça classification, etc. Mmh. Enfin, on se retrouve toujours avec des commissions qui se réunissent, on ne sait pas où, sans qu'on ait le droit d'intervenir. Donc, j'ai eu ça, effectivement, sur Série Noire. Je continue à être sidéré par ce type de décision. Alors, en plus, c'est handicapant. Hein, je veux dire. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est incitatif, c'est pas vrai du tout. Ça empêche un grand nombre de gens de venir. Et financièrement, c'est un vrai, vrai pépin. Je veux dire, quand il arrive comme ça sur un projet, on est très, très ennuyé. Quoi. Donc, Série Noire, c'était ça. C'était un tournage magique, 5-6 semaines, à toute vitesse, sans argent. On pensait que, bon, on s'était beaucoup amusé pendant le film, que le film coûtait presque rien, que donc, bon, il y aurait besoin d'un petit peu de spectateurs, mais pas trop. Et puis, on a été récompensé au-delà de nos espérances. Donc, c'est très bien. Et il y a eu surtout Devers qui était magique. Mais Devers a été magique souvent, je veux dire. C'est vrai que Patrick était plus qu'un acteur, c'était un sujet en lui-même et tout ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas très surpris de voir des jeunes comédiens de 15, 18, 20 ans qui, quand ils m'abordent, me parlent de Devers, comme étant quelqu'un qui leur ressemble. Quoi. Je pense que Patrick a un jeu extrêmement moderne, voilà, qui n'a pas une ride et qui parle de choses qui aujourd'hui sont encore actuelles.
Et le môme, en 86, ça parlait de quoi?
Ah, c'est autre chose. Le môme, c'était, alors, dans la petite tête, c'était l'essai de faire. Moi, je suis grand amateur de jazz, de toutes ces musiques et de blues. D'abord parce que c'est une forme immuable. On passe toujours par les mêmes dominantes, par le même couplet, par la blue note, etc. Et on s'amuse dans le blues et on a joué ça dans le blues pour les infimes variations sur un code immuable. J'ai voulu faire un petit polar mal élevé, pas classé du tout, entièrement sur les harmonies du blues, voilà, où il y avait toutes les catégories narratives standardisées de l'époque. Et où moi, je m'amusais là-dessus à jouer ma musique à moi. Voilà, c'était à peu près tout.
Et donc, c'était encore Anconina pour votre musique à vous?
Oui.
Déjà Anconina avec les baguettes. Absolument. Dans le choix des armes.
Absolument.
Et
c'était deux expériences avec Richard, qui cette fois-là étaient un peu différentes. Parce qu'il y avait une sorte de passion amoureuse qui était très différente du premier film, où il était coxé dans sa cité là-bas et sans espoir. Là, il y avait un petit côté brûlé du pompier pyromane, qu'on m'a reproché d'ailleurs dans le film, mais qui était très volontaire.
J'oublie un film dans cette chronologie-là, c'est Forsagan en 84.
Ah oui.
Bon, il n'a pas vraiment sa place dans les films noirs, quoique il paraît que le tournage a été plutôt un calvaire.
Oui, mais ça, ça n'a rien à voir, les tournages, ça, d'abord, personne n'a à savoir exactement comment se passe un tournage.
Aussi, c'est intéressant quand même, parce qu'il y en a marre de ces acteurs qui disent tout était merveilleux,
oui, c'était merveilleux. Ça a été très difficile.
À cause des conditions même du lieu.
Des conditions de tournage. Bon, il y avait la guerre de 14, il y avait une grande partie... Dans l'oasis qu'on a tourné en Tunisie, où il y avait déjà des problèmes, et puis après il y avait le désert. Alors, le désert, il y a deux solutions. Hein. Ou alors on tourne dans ce que j'appelle le pas vrai désert, c'est-à-dire dans le sud du Maroc ou le sud de la Tunisie, qui n'est pas le grand sud, où il n'y a pas de grand air, où il y a encore un peu d'herbe, etc. Ou alors on va dans le désert. Bon. Quand on va dans le désert, on est dans des conditions de tournage totalement contradictoires. À l'époque, hein, aujourd'hui ce serait différent avec les téléphones, etc. Ça veut dire qu'un tournage doit être constamment communiqué pour être ravitaillé constamment. Si vous êtes en plein désert, comme nous on l'a été en Mauritanie, vous êtes coupé de tout. Donc tout devient une difficulté insurmontable. Donc on a vécu ça, ça a été un tournage extraordinairement épuisant. Les acteurs ont été parfaits, très très courageux et jamais découragés. On ne s'est quand même jamais arrêté, même si des fois on ne pouvait plus faire qu'un plan par jour. Ça a été très très dur physiquement. Je ne crois pas que je pourrais le refaire physiquement aujourd'hui. Je ne crois pas que je pourrais faire quelque chose comme ça aujourd'hui.
Et l'envie en plus, à la base, c'était quoi
avec ce film ? La base, c'était l'envie du livre de Gardel, espèce d'envie d'épopée. Et puis, je me souviens très bien, ce mystère d'essayer de se replonger dans une psychologie précoloniale avec une mentalité d'aujourd'hui qui est vraiment tellement différente que ce sont des gens qu'on n'arrive même pas à comprendre. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un film sur la colonie. Mais c'est un film où des gens vont dans le Grand Sud parce qu'ils sont inadaptés à la société bourgeoise d'avant 14. C'est une espèce de personnages féodaux qui vivent des aventures extrêmement bizarres où ils doutent d'eux-mêmes, hein, bien sûr. Tout ça s'arrêtant par l'apocalypse de la guerre de 14 où d'un seul coup, là, ils voient ce qu'est la vérité de l'Europe et de l'horreur que va être le XXe siècle en Europe. Donc c'était ça l'idée. Alors avec toutes les difficultés, évidemment, que ça veut dire, des rapports avec ce qu'on appelait les indigènes à l'époque, la grandeur de l'armée ou pas la grandeur de l'armée, l'espèce de côté que les conquérants d'un absolu totalement inutile. À l'époque, la gauche est colonialiste, pour des raisons médicales, politiques, sociales. La droite est anticolonialiste en disant « mais ça sert à rien, on perd de l'argent pour rien », etc. Vraiment, tout est inversé. Bon, alors ça, évidemment, après la guerre d'Algérie, c'est extrêmement difficile, et je comprends très bien. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie a été d'une telle violence, d'une telle folie, qu'effectivement, le thème du colonialisme en France est une chose extraordinairement difficile à aborder. Ce que je comprends. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de films à faire. Beaucoup de films à faire. Saga dans l'étain, mais il y a d'autres. Il y a Copolani, il y a eu la mission Fourreau-Lamy. Enfin, il y a eu des, entre guillemets, épopées qui sont assez fascinantes maintenant. Mais il faut avoir le recul. Voilà. Il faut avoir le recul.
Vous l'avez revu, le film ?
Non, je ne revois jamais un film, donc celui-là comme un autre, pareil. Non, 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 j'en suis incapable. Ouais.
Force à Gagne était tiré du livre de Louis Gardel, oui. Comme la plupart de vos films d'ailleurs, Alain Corneau.
À partir d'un moment, oui.
Vous avez un rapport très fort à la langue, à la lecture, on voit des livres partout chez vous, la littérature donc. Oui. Nous en parlerons demain, de Jim Thompson à Pascal Quignard, d'Antonio Tabucchi à Giovanni, on en a parlé beaucoup, ou encore d'Amélie Nothomb à Dominique Ménard. Ce sera donc le thème de demain, le cinéma des mots. Merci Alain Corneau. C'était Alain Corneau, à voix nue, avec Sophie Nolo, prise de son Marcel Lebras, réalisation Laurent Polleret. Vous pouvez réécouter ces entretiens sur le site internet de France Culture, franceculture.com.